Azione!
J'aurais un petit mot à dire sur ce film, mais pas maintenant.
Il n'y a vraiment pas de quoi rire, là.
C'est vraiment un avis, ce film.
Vous voyez, c'est tout à fait bouleversifié.
Cinéma! Cinéma!
Vous ne trouvez pas ce film formidable? Moi, si. J'ai eu tellement pitié du malheureux monde.
Madame, je ne n'écrirai rien sur ce film, c'est une merde!
C'est un très beau film, j'en ai rien à foutre, mais c'est un très beau film.
On vit une époque formidable, Michel.
Absolument.
Tous les jours, on en a plein les yeux. T'es là, ouf.
Bonjour, bonsoir à toutes et à tous, vous écoutez Le Comptoir du Festival, la déclinaison cannoise du Comptoir du Cinéma, votre émission d'actualité cinématographique uniquement sur Transistor. Et pour ce 12e numéro, on est avec les collègues et néanmoins amis, Claire et Aubry. Salut à vous et bienvenue Claire de retour après deux épisodes qu'on a enregistrés sans toi. Il est tard dans l'année, hein, on enregistre en juillet maintenant, mais bon, c'est bientôt terminé et puis il faut bien à nouveau honorer les promesses faites à la direction de cette association qui nous a tout de même permis 10 jours de bonheur il y a un mois et demi. C'est donc le mois de juillet, certains de nos amis ont fini leur mémoire mais pas nous. Et le snack bar Picard de la salle commune de l'ENS nous régale heureusement de ses savoureuses crèmes glacées. C'est parti. Alors aujourd'hui après... Oui, voilà, une canicule éprouvante et en attendant d'autres éprouvantes et au seuil des vacances d'été, quoi que ça veuille dire, on va faire un tour pour se rafraîchir au bord d'un lac en Europe du Nord. Ce sera le thème de l'épisode. Alors, outre qu'il faille bien sûr y voir l'expression d'un désir personnel, c'est aussi le moyen qu'on a trouvé pour réunir ensemble deux films du programme dont on n'a pas encore parlé. Et oui, oui, c'est l'épisode où on va parler de la Palme d'Or et du Grand Prix, donc Fjord et Minotaur respectivement. Tous les deux tournés là-bas, au bord d'un lac, en Europe du Nord. Et puis, en vérité, il y a même plus hein, qui les rallie tous les deux. Chaque film déploie une sorte de maîtrise, une rigueur très, très nordique, très froide, très accordée avec leur sujet, qu'ils veulent chacun être une chronique du contemporain et une chronique en prise hein, avec le contemporain. D'une part, donc, dans Fjord, la question de la tolérance de l'autre à l'épreuve des migrations au sein de l'Union européenne et de convictions politiques divergentes. De l'autre, la guerre impérialiste menée par Vladimir Poutine en Ukraine et pour l'un comme pour l'autre, une envie d'agir sur le réel en l'évoquant directement et en désirant susciter une réaction du public et du monde en général. Après tout, Zviagintsev, en recevant le Grand Prix pour Minotaur, on a bien appelé directement au président de la Fédération de Russie et le sujet a même été abordé lors d'une conférence de presse au Kremlin. Puis, dans une compétition dont on a beaucoup, peut-être trop, dit qu'elle était nombriliste, ne contenait que des portraits d'artistes, dépolitisés, voilà bien deux films qui, au moins, détonnaient. Cela étant, ne sacrifient-ils pas tous les deux un peu l'émotion à leur thèse dans leur démonstration? C'est aussi une question qu'on pourra se poser, quand bien même les films nous ont plutôt plu, à des degrés divers, je peux le dire sans spoiler l'émission. De toute façon, il me semble qu'on n'aura jamais eu de désaccord vraiment violent sur cette édition du Festival de Cannes. Alors n'attendons plus et allons-y pour l'avant-dernier comptoir du Festival. On commence donc avec Fjord. Parce que c'est le premier de ces deux films qu'on ait vu, et en gala et en première mondiale encore, s'il vous plaît, en présence de toute l'équipe qui montait les marches pendant que, ayant des places de dernière minute, nous devions pour notre part les courir, ces marches du Palais des Festivals, 4 à 4, pour rentrer dans le Grand Théâtre Lumière, bon, c'est si loin déjà. Cette équipe, c'est l'équipe en question, c'est en bas des marches, c'est notamment donc, Christian Mungiu, le réalisateur roumain déjà palmé en 2009 pour 4 mois, 3 semaines, 2 jours, et puis les acteurs de tête, les stars internationales Renate Reinzwe et Sebastian Stan. Dans ce film, tous deux sont pourtant bien défaits de leurs oripeaux de stars internationales. Ils sont bien rendus pas sexy du tout puisqu'ils incarnent respectivement Lisbeth et Mihai Georgiou, les deux parents d'une famille aux valeurs très conservatrices avec 5 enfants pétris de christianisme protestant. Exit donc l'héroïne paumée et sympathique de Julie en 12 chapitres, exit le soldat de l'hiver un peu sexy, bonjour l'austérité de lunettes rectangulaires, de pullover et d'un crâne chauve que Sébastien Stan a effectivement rasé pour l'occasion. Lisbeth est norvégienne, Mihai est roumain, et le film débute alors que tous les sept viennent de Roumanie s'installer en Norvège, dans le village d'origine de Lisbeth, après la mort des parents de Mihai. S'ils s'intègrent d'abord très bien dans cette petite communauté tranquille, installée sur les bords d'un fjord, ville, bientôt naît et croît le malaise. En effet, au détour de discussions entendues par les profs du collège où les Georgiou ont scolarisé leurs enfants, et à la vue d'un bleu sur l'épaule d'Elia, la fille aînée de la famille, les adultes du collège déduisent que le couple pousse la rigueur de leur éducation jusqu'à battre leurs enfants, ce qui est bien évidemment intolérable. Lorsqu'ils prennent sur eux, ces adultes qui ont repéré ça, de contacter l'aide à l'enfance, avant d'en parler avec Mihai et Lisbeth, la machine s'emballe et les parents roumano-norvégiens, qui nient catégoriquement avoir commis toute forme de violence, engagent une bataille légale pour retrouver leurs enfants et reconstituer leur famille. Le film devient donc sur sa deuxième partie une sorte de film de procès où tout le monde va néanmoins se trouver, plus ou moins consciemment et plus ou moins volontairement, pris dans une bataille culturelle qui les dépasse et qui perd de vue le plus important, les enfants donc, desquels tous se réclament les fervents défenseurs. Cela étant, et c'est ce qui fait la force du film selon moi, ce dernier point que je viens d'évoquer, le désintérêt porté par les adultes aux enfants qu'ils prétendent défendre n'est jamais théorisé tel quel par Moon Joo, qui le met simplement, discrètement et évidemment en scène. Tout du long du film, les enfants se déploient dans leur propre univers, parallèle à celui des adultes, et ces enfants tentent tant bien que mal d'esquisser une troisième voie dans un affrontement qui, certes, renvoie dos à dos les idéologies ultra-conservatrices et de l'autre un certain progressisme connecté, mais se trouve tempéré dans son cynisme par cette voix enfantine qui lui permet d'échapper à une forme de tous pourris, comme à une forme de centrisme, quoi qu'il aurait peut-être gagné à être encore légèrement plus radical dans ses prises de position, au risque de nous mettre plus mal à l'aise le temps du film vis-à-vis de nos propres convictions, qu'il ne le fait déjà. Cela étant, le film tel quel a déjà bien énervé Libération et les Inrocks, qui n'ont pas du tout aimé cet exercice de pensée contre soi-même et d'empathie avec des gens dont on ne partage pas du tout les valeurs, puisque c'est malgré tout eux qui sont victimes d'une injustice, quand même le trouble est réel. Et l'on ne dira pas s'il est élucidé, sur la nature fondée ou non de l'accusation portée contre les Georgiou. Est-ce que ça a fonctionné pour vous? Vous allez me le dire. Claire, est-ce que tu veux commencer?
Oui. En fait, je trouve que tu as tout très très bien résumé de tous les enjeux et de tout comment... Enfin, de la lecture qu'on peut en avoir du film. En fait, moi, personnellement, j'ai adoré, je trouve que le film est brillant. Après, j'ai encore... Un petit truc, je sais pas comment expliquer, ça a pas été une séance où je me suis dit waouh c'est super, enfin je me disais waouh c'est super, le film se tient vachement bien, c'est hyper intelligent, hyper fin, les questions qui sont proposées sont très intéressantes parce que justement, enfin moi j'aime bien le fait que ça soit pas trop radical, que ça y aille à tâtons, qu'on sache pas exactement de quel côté le film se situe, parce que vraiment il est dans ce choix là et il est entièrement dans ce truc de non, on va pas choisir à votre place et c'est à vous en tant que spectateur de vous poser des questions et de réfléchir avec le film. Et je trouve ça super intelligent et intéressant. Après, pour le coup, du coup, je trouve que c'est une séance qui est très cérébrale. Je sais pas, je passe un peu mon temps à regarder tous les indices, à me dire ok, là, c'est super beau parce que c'est bien construit, machin. Et en fait, l'empathie venait presque de la force... du film à construire des images fortes d'un point de vue presque théorique, enfin d'un point de vue ouais très au niveau des idées, et donc moi il m'a manqué un peu ce petit plus de l'émotion. Alors je sais pas si c'est comme tu disais le sacrifice de l'émotion face à la thèse, parce que au contraire je pense que la thèse utilise justement l'émotion pour nous amener là où elle veut aller, mais ouais voilà, il y a un peu ce truc là où du coup j'ai pas réussi à être entièrement emportée vraiment au-delà de ce regard un peu analytique qu'on peut avoir, surtout au Festival de Cannes, je pense. Hormis, peut-être, les enfants que j'ai trouvés hyper forts. Le casting des gosses est fou. Ils jouent trop trop bien. Et en plus, je trouve ça très, très intéressant parce qu'ils ont une nuance par rapport aux adultes dans leur jeu. Les enfants sont plus facilement radicaux que les adultes face à cette question, en fait. Et je trouve ça très juste. Enfin, il y a vraiment ce truc de des générations et tout. Enfin, franchement, c'est hyper intéressant. Plus j'y pense à ce film, plus je trouve ça passionnant. Mais ouais, voilà, la séance, il y a un petit... Peut-être que c'est lié au Festival de Cannes. Au fait de se dire, ah là, on va réfléchir devant le film. Qu'est-ce que je vais en penser ? Et qu'en fait, si tu... Enfin, en fait, il y avait aussi que... enfin, beaucoup de films cérébraux dans cette sélection. Et donc, je pense que là, il y avait un peu un espèce de ras-le-bol, en tout cas personnel, de me dire, oh, oui, bon, ok, on a compris. Ils le font super bien. Mais voilà, c'est encore... C'en est encore un, quoi. Mais au-delà de ça, franchement, il est super.
En fait, moi, je suis assez d'accord avec vous, même si j'ai peut-être encore un peu plus un bémol, dans le sens où, moi, je trouve le film vraiment très bon aussi, il n'y a pas de souci, là-dessus, on est d'accord. Là où je mets un bémol, c'est que le film m'emmerde un petit peu. C'est un peu méchant dit comme ça, parce qu'en vrai, je l'aime quand même beaucoup, mais il me laisse... pour le coup, avec Claire, un peu sur le carreau, il m'emporte pas, quoi. C'est un peu ce que tu disais, Claire, quand tu disais que c'était très cérébral. Pour quand même lui rendre ce qui lui appartient, je trouve que le scénario est extraordinaire. Enfin, pour le coup, pour moi, c'était le meilleur scénario du festival, d'assez loin, enfin, avec peut-être un autre film dont on va parler plus tard, dans une autre émission. Je trouve que c'est un scénario qui est d'une précision et d'une ambiguïté assez folle. Enfin, Louis, tu parlais de trouble, c'est exactement ça. Ce que j'adore avec ce scénario, c'est la manière qu'il a de flotter entre ses personnages et entre ses situations, sans jamais les surplomber, les prendre de haut. C'est-à-dire qu'on est toujours à hauteur humaine et en même temps à hauteur structurelle par rapport à ce qui se passe, à ce qui est montré. Et ça, je trouve que, en termes d'études, entre guillemets, et de regard porté de subtilité, je trouve ça assez fou pour le coup. Surtout que, pour le coup, ça va avec la mise en scène de Moon Joo, qui est en fait elle-même tout aussi précise, carrée, clinique en fait. Le problème, c'est qu'à force d'être clinique, moi je trouve qu'on en devient assez froid. Et malgré le fait que c'est assez passionnant à suivre sur un peu plus de deux heures, cette espèce de chronique en fait qui est imprégnée de violence et d'un caractère malsain en fait. Enfin, t'as l'impression qu'il y a une espèce de mal qui se niche un peu partout, que ce soit au cœur des foyers chez les Georgiou ou juste dans la société norvégienne de façon plus générale, et qu'en fait la violence domestique répond à la violence structurelle de la société et inversement. Mais voilà, le problème, c'est que quand je dis que ça m'emmerde un peu, c'est que ça me procure rien. C'est-à-dire que, rien, j'exagère, il y a quand même des plans qui m'emportent, on y reviendra. Mais je trouve ça très intéressant, très bien foutu, mais je reste spectateur. Et ça, c'est un peu ma limite avec le film. Pour le dire autrement, je trouve qu'en fait, c'est aussi ça qui me pose problème. C'est que je trouve que c'est vraiment l'archétype, surtout dans cette sélection du film de festival européen, dont la mise en scène, peut-être moins le scénario, mais surtout la mise en scène, cette espèce de rigueur clinique, de froideur, etc. C'est presque un élément de recette pour un film récompensable dans un festival comme Cannes. On pouvait déjà dire ça, par exemple, du film de Trier l'année dernière, je trouve, même si je l'avais beaucoup aimé aussi. Donc voilà, je trouve que c'est un excellent film. Après, y en a qui m'ont quand même plus accroché, quoi.
Merci à tous les deux. Moi, vous avez évoqué... les questions de mise en scène, à un moment chacun l'un et l'autre dans votre prise de parole. Et effectivement, moi, c'est ça qui m'a intéressé pendant le film lui-même. Quand bien même, il y a ce côté un peu cérébral, effectivement, dans... Même un plan beau lui-même l'est aussi parce qu'il y a une idée derrière. Et c'est rare qu'il le soit uniquement pour le beau geste. Et dans un sens, bon, quand il y a des films qui ne font ça que pour le beau geste, c'est pas mieux non plus, me direz-vous. Là, en l'occurrence, ce que j'aime bien dans la mise en scène, c'est qu'il est marqué par un minimalisme revendiqué, en fait. Un peu comme le film dont on va parler juste après. Il fait le choix, tu disais, Aubry, d'une... qu'il en devenait froid. Oui, de fait, la photographie est très froide, mais elle est adaptée à son décor. On est sur des couleurs excessivement bleues, grises, marron. Et qui prend néanmoins donc le risque de trop mettre à distance son sujet, ce que renforce une mise en scène très naturaliste, donc au cordeau, cherchant à tout prix à effacer le corps de la caméra, pour ainsi dire. Et ce parti pris du naturalisme sobre, que moi j'ai vraiment trouvé très intéressant pour aborder ce sujet, en tout cas, il est aussi au cœur du jeu des deux acteurs de tête, donc Sebastian Stan et Renate Reinsve, qui sont assez marquants par l'absence d'émotions dont ils font montre, qui nous empêchent du coup justement de pleinement adhérer à leur point de vue par ailleurs, ce qui fait qu'on a plutôt tendance à être du côté des enfants aussi pour ça. Ce que disait Claire, dans le côté de la radicalité des personnages enfantins, il y a la fille des voisins, notamment, qui, moi, est au cœur de deux plans très marquants du film, le tout dernier, où enfin il y a une espèce d'explosion du sentiment, mais qui est empêchée par les adultes, par une espèce de... Alors, on va pas décrire ce plan, mais il y a une masse qui écrase, en gros, on va dire, le corps de la fille, alors que enfin il y a une décharge d'émotion dans le film. Et puis au tout début du film, ce même personnage fait un acte extrêmement violent, radical, éprouvant aussi à regarder, je vais pas vous mentir, mais bref, du coup, place les enfants dans un pôle réactionnel émotif, qui n'est pas le cas des adultes. Et donc, si on est avec les adultes, etc., c'est plus par rejet de la machine judiciaire kafkaïenne qui les broie que par soutien actif. Et ça, cela étant, on peut quand même souligner, je pense, aussi l'excellente prestation de ces deux comédiens, qui parlent, donc, notamment Sébastien Stan, qui parle autant en roumain qu'en anglais, ayant lui-même des origines roumaines. Donc voilà, moi, il y a des choses encore aussi sur le film qui m'ont intéressé, mais clairement, ce choix de la sobriété, il a une puissance qui n'est pas négligeable.
Je vois très bien ce que tu veux dire avec la sobriété, mais pour le coup, je trouve qu'elle a aussi vachement ses limites. Parce que, en fait, je trouve que la sobriété... que cette espèce de... Je sais pas si c'est une neutralité, mais l'espèce d'ambivalence, d'ambiguïté dont on parle... Enfin, en fait, cette espèce de... d'endroit dans lequel le film se met, en termes d'idées, personnellement, me parle beaucoup. Mais du coup, il le fait aussi dans sa forme. Et en fait, je crois que moi, j'aurais bien aimé qu'il y ait un peu plus de différence entre les deux. Dans le sens où... justement, Aubry, tu disais qu'il y avait pas de, on pouvait difficilement s'accrocher au film, enfin que c'était. Et en fait, je suis d'accord, c'est un peu lisse dans le sens où, à partir du moment où on comprend que le film ne va pas faire de choix, bah en fait, là, c'est là que je te rejoins, on s'emmerde un peu dans la, enfin, en fait, si on se pose pas les questions de, ok, là il nous montre ça pour dire ça et tout machin, au final, bon bah on a compris quoi. Enfin, je veux dire. Et oui, la fin, moi je crois que la fin m'a moins émue que vous deux, si je dis pas de bêtises, parce que je trouve qu'on s'y attend presque, dans le sens où il n'y a pas des... Enfin, il faut bien que... Enfin, le film ne va pas nous laisser sans émotion, parce qu'il faut bien qu'il nous accroche à un moment donné, et en fait, juste, il profite de cette fin, et je trouve qu'en ça, il ressemble beaucoup à Fatherland, parce qu'il y a ce même principe de, ok, la fin va être une grosse claque, parce qu'il faut que ça soit... que ça soit marquant et que cette réflexion qui est un peu plus politique, un peu plus sociétale, etc., c'est en fait aussi un peu dans une famille, dans des relations et tout machin. Je sais pas. Moi, je... En fait, je trouve ça un peu dommage. Enfin, je sais pas. C'est la froideur me laisse un peu perplexe, en fait. Alors même que le film se tient très bien, mais du coup, ça manque de moments de... En fait, de pics, de nuances dans l'autre sens, en fait. Enfin, je sais pas comment être plus clair que ça, mais on est trop sur la même note, en fait. C'est un peu monotone, en un sens. Tout comme bah, les couleurs vont être dans une espèce de... Ce que tu disais, une espèce de gris d'entre-deux. En fait, tout est dans l'entre-deux tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et ouais, ça m'a laissé un peu... Pas de marbre, mais... Ouais, un peu déçu, enfin...
Ouais, bah enfin moi je pense un peu la même chose, mais tu disais tout à l'heure, enfin une fois que t'as compris entre guillemets que le film va pas faire de choix, c'est là que tu t'emmerdes un peu. En fait c'est que le film a quelque chose de très programmatique à cet endroit-là et j'en parlerai aussi pour Minotaur parce qu'en fait j'ai un peu les mêmes reproches à faire pour les deux films, mais c'est que du coup je trouve que paradoxalement alors qu'on a tous ces plans larges sur les grands espaces norvégiens on a l'impression de prendre un bon coup de froid bien mérité. En fait, je trouve que le film respire pas du tout. En fait, il est très très engoncé dans son programme. Enfin, en fait, quand je parlais de mise en scène froide, je parlais pas forcément de couleur. Enfin, pour moi, ça tient aussi beaucoup dans les cadrages, dans en fait, bon, la sobriété, le naturalisme dont tu parlais, Louis. Et pour moi, en fait, vraiment ce qui vient casser ce rythme-là ou même la monotonie dont tu parlais, Claire, c'est les enfants et le personnage du grand-père qui finalement m'a plus marqué que ce que je pensais au premier abord, notamment parce qu'en fait il est très très proche de sa petite fille en termes d'écriture. Enfin, disons que les deux sont animés par des séquences plutôt semblables.
C'est le père de la voisine du couple de Renato Renzo et Sebastian Stan. Voilà. Et donc le grand-père de l'ami des enfants du couple.
Voilà. Et enfin, disons qu'en fait c'est des personnages qui vont dévier de la structure du scénario, qui vont dévier de leur cellule familiale, qui vont faire dérailler la mécanique implacable du film. Et genre, quand ça arrive, là, le film d'un coup m'accroche et commence à me passionner avant de repartir sur sa monotonie. Donc, enfin, c'est un peu ce qui me gêne. Et comme toi, Louis, enfin, moi, je suis un peu terrassé par ce dernier plan. Le problème étant que ça n'arrive qu'au dernier plan. et ouais, je pense que après, c'est aussi une question de style. Enfin, à la fois, je trouve ça très intéressant et à la fois. Je m'avoue aussi un peu vaincu dans le côté, c'est peut-être juste pas mon truc, quoi.
J'entends ce que tu dis. Comment dire, moi, dans les trucs qui m'ont intéressé dans le film et qui vont me permettre de rebondir aussi sur ce que tu viens de dire, c'est que donc le film est, j'ai vu qu'il pouvait être classé par certains médias, à certains endroits comme un film de procès, ce qu'il est en partie à un moment, ce qu'il devient, mais je trouve que c'est aussi un anti-film de procès et de manière très intéressante, le cadre, le décor choisi, qui est une salle d'audience minuscule du tribunal d'Oslo sans doute, le cadre annule l'attention du procès. C'est-à-dire que moi, je n'étais pas du tout investi vis-à-vis de l'issue de l'audience ou du verdict lui-même, pas du tout. Enfin, c'est personnel en tout cas. Parce qu'il y a ce côté programmatique et que je pense que j'avais, comme tu le disais Claire, compris de toute façon que le programme du film était de rester dans une ambiguïté, de nous laisser à préjuger. Et de fait, enfin, sans spoiler le verdict, il y a encore cette idée-là dans la décision rendue par le tribunal. Les plaidoiries, elles ne donnent pas lieu à un moment de bravoure quelconque en termes de dialogue ou d'écriture, comme c'est souvent le cas dans les films de procès. Elles illustrent plutôt l'espèce de prise idéologique sur l'avocat de l'aide à l'enfance, par exemple. Une espèce de prise idéologique, du coup, notamment progressiste ici. Et donc d'opacité du système judiciaire qui défait le rêve de transparence architecturale de la pièce, qui est assez belle, hein, qui compte une grande baie vitrée qui donne sur la mer. Et finalement, et elles sont là, les respirations au bric, tu disais, et c'est là que j'allais dire, je suis pas d'accord avec ce que tu as dit, mais tu t'es plus ou moins contredit ou nuancé toi-même. C'est-à-dire que je trouve que la tension attendue d'un film de procès, l'intérêt, il naît ailleurs, il naît dans tout ce qui se passe autour de cette famille qui, moi, m'a beaucoup plus stressé, beaucoup plus touché, de leurs voisins, du reste du fjord, en fait, finalement, plus que de l'affaire elle-même, avec donc ce personnage de vieillard, avec ce personnage d'enfant. Et voilà, je trouve que voilà, là, il y a des respirations. C'est là que, moi, le film m'intéresse vraiment beaucoup et donc fait que j'ai vraiment pas tant de reproches à lui faire en général. Et qui propose voilà, des tentatives d'échapper, des pistes, quelles qu'elles soient, de ce lien transgénérationnel, par exemple, là où les parents sont unanimement considérés comme une génération qui a failli, etc., etc. Et il le fait, je trouve, le film avec une certaine modestie, qui était le ton d'ailleurs adopté par Christian Mungiu après la standing ovation de 13 minutes qu'il a eu en gala et à la conférence de presse de... Enfin, il avait ce truc très modeste et qu'on n'entend pas tout le temps, en tout cas à Cannes, de laisser le temps après voir et juger son propre film et de s'adresser directement aux spectateurs, au public. Et en cela, voilà, Fjord, pour moi, c'est un film qui est vraiment très bien. Est-ce qu'il méritait la Palme d'Or plus que d'autres ? En tout cas, peut-être moins que d'autres encore. On va en parler dans peu de temps, dans cette émission ou dans une autre. Mais en somme, voilà, pour moi, le film, j'ai vraiment... pas autant de reproches, je pense, à lui faire que vous n'en avez. Quand même, j'entends tout à fait que cette tiédeur, plus au fond que cette froideur, puisse lui être reprochable.
Peut-être juste rapidement pour conclure, tu mentionnais en début d'émission qu'il y avait une partie de la critique qui avait compris le film comme un film profondément réactionnaire et droitard, ce qui, pour le coup, pour moi, relève vraiment juste de la mauvaise lecture enfin pour le coup j'ai l'impression qu'on n'a pas vu le même film quoi. Par contre, à la rigueur, un reproche qu'on pourrait enfin que moi je pourrais entendre au film de Mungiu, c'est que je trouve qu'effectivement à force de vouloir flotter comme ça, ne jamais prendre parti en fait et nous laisser un peu décideurs dans ce de toute façon tout le monde est méchant sauf les enfants peut-être, il y a quelque chose de entre le cynisme et le blasé qui bon à la fois peut juste être un peu emmerdant certes, mais peut aussi quelque part relever d'une forme de facilité, enfin de retrait un peu facile. Et en tout cas, si on veut, à mon sens, juger politiquement le film, c'est plus sur cet endroit-là que sur un potentiel côté réactionnaire ou droitard.
Alors c'est hyper rigolo parce que je suis d'accord avec toi, mais par contre, je trouve que c'est pas du tout. Attends, c'est quoi les mots que t'as utilisés ? Cynique, blasé et non, quand tout le monde était méchant et que. Oui, du coup, je suis pas tout d'accord avec avec ça parce que pour moi, au contraire, le film veut comment dire le tout le principe, c'est que on est tous hyper ambigus dans notre façon d'agir, dans nos choix, et que là, justement, moi, c'est ça que et c'est là d'ailleurs, ça rejoint ce que tu disais, Louis, sur le côté le film est humble. Je trouve qu'il est humble aussi dans le scénario, dans le sens où les personnages font de leur mieux tous. Ils le font de manière hyper sincère. Et je crois que moi, c'est là où j'ai eu un peu plus d'émotion que ce que j'en dis avant. Mais, et c'est comme ça qu'ils sont hyper touchants. C'est que cette mère, elle aime ses enfants du plus profond. Le père, pareil. Et en fait, chacun. Et que simplement, ils le font de manière... bon, maladroite, c'est pas vraiment le mot, vu qu'on parle quand même de violence faite aux enfants. Mais il y a un peu ce truc-là quand même. Et pour autant, le film ne minimise pas. Et en fait, c'est là que je trouve qu'il est vraiment très fort dans ses idées. Et que donc ce truc de dire tout le monde est méchant, bah je suis pas d'accord du coup. Enfin pour moi c'est vraiment au contraire là que situe la partie la plus intéressante du film et le côté par contre mauvaise foi de ouf là de ceux qui disent que c'est un film réactionnaire absolument pas. Et au contraire c'est un film qui se veut vraiment. Enfin pour le coup c'est là qu'il est super je trouve, c'est dans la liberté qu'il donne. À la fois au personnage, à la fois au spectateur, d'être vraiment complexe et de. En fait, de juste poser des questions plutôt que de juste mettre dos à dos des positions, en fait.
Merci beaucoup à tous les deux. Fjord de Christian Mungiu, c'est La Palme d'Or et ce sera en salle le 19 août. Et passons maintenant au second film de ce bref programme, un film russe, ou plus exactement russophone, mais certainement pas produit par des sociétés russes, Minotaure d'Andrei Zviagintsev, un réalisateur habitué du petit monde festivalier, y compris du Festival de Cannes, déjà prix du jury et du scénario à Cannes, respectivement pour Faute d'amour en 2017 et Léviathan en 2014, et même du Lion d'or vénitien pour son premier film en 2003 à Venise, donc Le Retour. Autant vous dire que c'est un nom qui, pour ainsi dire, pèse dans le game, mais qui n'avait plus rien réalisé depuis 2017. Il faut dire cela étant qu'en 9 ans, il s'est exilé hors de son pays, il a failli mourir du Covid, et il a dénoncé avec virulence l'agression impérialiste que la Russie mène contre l'Ukraine depuis 2022. Il y avait donc du symbole, autant que de la force politique dans sa présence à Cannes cette année, pour l'un des films peut-être les plus fortement engagés de cette compétition, je dis bien de la compétition. Et bien Claire d'ailleurs, t'étais par ailleurs à la présentation en première mondiale et en présence de l'équipe dans le Grand Théâtre Lumière du Palais des Festivals, avant qu'il ne reçoive le Grand Prix, et puis d'ailleurs, on le rappelle, le prix de la meilleure musique de film, conjointement avec Autofiction d'Almodovar, pourquoi pas. Minotaure, c'est donc un film sur des gens qui persistent à choisir la haine de soi et des autres et la solution violente aux problèmes intimes pardon, comme historiques. Quoique tourné en Lettonie, pour des raisons évidentes, il se passe en Russie au début de l'opération militaire spéciale, pour reprendre l'euphémisme poutiniste, mené en Ukraine depuis février 2022, et suit la famille dysfonctionnelle de Gleb, patron d'une entreprise vivant dans un cadre franchement aisé, hein, on peut le dire, et habitué à un certain degré de luxe. Il a des amis qui, sans être les oligarques multimillionnaires qu'on peut avoir en tête, s'en sortent vraisemblablement très bien dans la vie, comme on le voit dans une scène au restaurant. Il s'entend, Gleb, avec le maire de cette petite ville à un degré proche de la corruption. Et puis surtout, il vit dans une sublime villa au bord d'un lac, comme ça on fait le lien avec le titre de l'épisode, avec son épouse Galina et leur fils Serioja. Quoiqu'il semble ainsi ne pas avoir de problème, Gleb connaît en vérité une double crise qu'il va s'employer à résoudre avec la brutalité propre à une société totalitaire. D'une part, sa famille est, je l'ai dit, dysfonctionnelle. Alors, outre son fils qui est assez taiseux et assez accroché à son téléphone, mais ça, c'est comme tous les jeunes. Le problème, c'est surtout qu'il soupçonne, et à juste titre... Non, mais tous les jeunes de cinéma, c'est pas moi qui... Bref. Le problème, c'est surtout qu'il soupçonne, Gleb, et à juste titre, que sa femme le trompe avec, en l'occurrence, un beau photographe, et que, globalement, elle semble le mépriser, bah, lui. D'ailleurs, elle ne semble pas, elle le méprise assez ouvertement. Il n'y a plus aucun amour entre eux, c'est perceptible, et c'est d'ailleurs une des principales différences entre ce film et La femme infidèle de Claude Chabrol, dont il est un remake quasiment plan par plan. Tout au long du film, et vraiment par moments c'est flagrant. L'autre différence fondamentale avec la chronique glacée de l'éthique et de la morale bourgeoise que proposait Chabrol dans les années 70, ou 60, pardon, c'est donc que l'entreprise de Gleb doit, dans le cadre de la mobilisation partielle de l'automne 2022, envoyer 14 de ses employés au front, d'où le minotaure du titre, puisque le mythe veut qu'ils soient envoyés tous les 7 ans dans le labyrinthe de la bête, 14 jeunes gens qui seront dévorés. Gleb, qui ne peut pas prendre le risque de se séparer de ses employés, recourt à divers stratagèmes, plus immoraux les uns que les autres. Voilà pour les données de base. On va essayer d'en parler à un présent un petit peu, j'allais dire sans trop spoiler, mais il n'y a pas tant de choses que ça à spoiler cela étant. D'autant que le film sort en octobre, donc vous aurez peut-être l'occasion d'en parler au comptoir saison 4. Pour moi, c'était un des meilleurs films du festival. À mon avis, un très sérieux prétendant à la Palme d'Or. Et... plus j'y pense, plus je trouve que on aurait pu inverser l'ordre Grand Prix Palme d'Or avec Fjord. Pour tout vous dire, après, il faut que je revoie les deux dans un contexte autre que cannois, qui joue effectivement beaucoup, comme tu le faisais remarquer tout à l'heure, Claire. J'oubliais de préciser enfin que les rôles de Michel Bouquet, qui jouait le mari trompé dans le film de Chabrol, et de Stéphane Audran, qui jouait la femme infidèle, sont ici remarquablement repris par Dmitri Mazourov et Iris Lebedeva, et celui de l'amant, que jouait Maurice Ronet dans le film de Chabrol, est dévolu au comédien ukrainien, ce qui peut être intéressant de remarquer, Yuri Zavalniuk. Ayant déjà pas mal parlé, je vous donnerai un avis global sur le film étendu après vous. Claire, je le disais, tu étais à la première du film. Quel est ton avis sur ce Minotaure d'Andrei Zaginsev?
J'ai trouvé que le film était hyper intéressant. En fait, il se ressemble vraiment beaucoup avec Fjord, plus j'y pense. Et en termes d'arguments critiques, si on peut dire ça comme ça, ça va se ressembler pas mal. Parce que le film fonctionne un peu de la même façon, je trouve. Dans le sens où il a sa thèse. Alors là, il nous laisse moins le choix parce que sa position est quand même très claire. Mais il y a quand même ce truc de personnages qu'on suit qui sont détestables. Et en même temps, on ne peut pas tout à fait les détester entièrement parce qu'on nous explique toutes les raisons de pourquoi ils sont comme ça. Et il y a ce truc du... En fait, c'est vraiment l'intime et l'histoire qui se lient. Dans ce personnage principal là, du patron, en fait, je sais même plus exactement dans quelle entreprise, en fait j'ai l'impression que c'était une entreprise un peu de BTP, truc de construction comme ça, bon bref, mais en tout cas lui de toute façon est cadre, donc la question se pose qu'à moitié, et ouais non, et le film est vraiment super en termes d'espace et de construction, je sais pas trop comment dire ça, de lieu, enfin de... Ouais. En fait, j'étais vraiment fascinée par la façon dont la guerre s'immisce partout et la façon dont ils arrivent à filmer ça, parce que tout le début du film, en fait, la guerre est vraiment en arrière-plan, mais vraiment très très arrière-plan. Et c'est seulement après qu'on comprend en fait comment elle a nourri toutes les dynamiques dès le départ du film. Pour le coup, je trouve qu'il y a quand même des choses à spoiler, donc je n'ose pas trop en dire plus, c'est un peu délicat, mais... Mais ouais, non, franchement, j'ai trouvé ça hyper intéressant de voir comment... En fait, toute cette construction de la bourgeoisie hyper égoïste qui se veut à la fois anti-guerre et en même temps juste qui utilise la guerre à des fins personnelles de manière hyper flagrante et qui ne s'en rend même pas vraiment compte, voire qu'il le fait de manière complètement assumée, il y a un peu des deux. Et les acteurs... En fait, c'était une très belle découverte pour les acteurs aussi, que j'ai trouvé tous les deux fantastiques. L'amant aussi, en réalité... Même si, bon, il est évacué assez vite, le pauvre. Et d'ailleurs, je pense qu'on pourra revenir sur cette scène... Or, comment faire pour ne pas spoiler ? Sur l'acteur de l'amant. Parce que je pense qu'on aura des choses à dire. Mais non, franchement, très très belle découverte et hyper intéressant, ouais, encore une fois.
Pareil, je vais être assez rapide parce qu'en fait, le cœur de ce que j'ai à dire sur le film, en fait, c'est juste du spoil. Donc, plus sérieusement, j'ai beaucoup aimé le film. Je disais tout à l'heure, j'ai un peu les mêmes reproches à lui faire que Minotaur, c'est-à-dire que bon, ça reste assez froid. Je trouve que c'est toujours excessivement calibré film de festival. Et de toute façon, un peu comme pour Mounju, en fait, mais. Le palmarès de Zviagintsev parle pour lui en ce sens. Pour autant, un peu de la même manière, je trouve que ça raconte des choses passionnantes. Voir, là, c'est sur un plan à la fois très théorique en fait en cinéma. Je trouve que c'est un film qui pense énormément et très consciemment son médium, enfin l'art qu'il pratique, quoi. Ne serait-ce déjà qu'à partir de l'acte du remake plan par plan, mais ça je pourrais pas trop en parler parce que j'ai pas vu le film de Chabrol, mais je trouve que dans la manière en tout cas dont il actualise certains motifs dont je me doute, c'est extrêmement intéressant, surtout qu'il rend ça complètement indissociable de ses motifs politiques. C'est là que le film devient absolument brillant, je trouve. Après, voilà, de la même manière, autant ça me fait beaucoup gamberger, je trouve ça passionnant à réfléchir, d'en parler, etc. Autant, un peu comme Fjord, en tant que pure expérience de spectateur, ça m'a pas non plus emporté. Et je reste un peu dans cet état de c'est très très intéressant, voire c'est passionnant, mais ça me touche jamais profondément en fait. Mais donc voilà, mais c'est vraiment vraiment très 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 fort pour le coup. Je vous rejoins complètement sur les actrices qui sont remarquables dans leur jeu, enfin dans cette espèce de minimalisme très particulier. C'est vrai que ça se ressemble beaucoup avec Fjord, parce que c'est pareil, t'as un côté minimaliste et en même temps un côté instiguer le malaise un peu tout le temps et sur tous les aspects, que ce soit du jeu jusqu'à la mise en scène. Et en même temps, c'est très particulier, enfin c'est un malaise qui est très différent, quoi, ici, je trouve. Ça fonctionne à merveille, bref, c'est assez génial.
Et oui, juste pour le coup, par rapport à Fjord, Minotaur, c'est quand même vachement drôle. Enfin, il y a des moments où on rigole vraiment sincèrement. Et d'ailleurs, pour le coup, ça m'a fait trop bizarre à certains moments dans la salle parce qu'il y a des rires, pas nécessairement à des moments tout à fait opportuns. Et c'est très bizarre d'un point de vue, d'un point de vue politique, un peu de se dire ok, là on rigole. De quoi on rigole exactement en fait? Et ça, je trouve que c'est une force que n'a pas Fjord. Peut-être parce que ça parle des enfants et que c'est une question un peu plus universaliste, un peu plus sur des valeurs, sur de quelle société on a envie de construire, etc. Là, il y a quelque chose quand même de plus ancré dans le concret, oui, c'est ça, qui, là, du coup, fait que je te rejoins, Louis, sur le côté, peut-être que Minotaur est un peu un cran au-dessus de Fjord, de ce point de vue-là, dans le sens où il a ce truc de... un espèce de corps, un peu plus, que Fjord, qui est, je trouve, hyper intéressant.
Là je suis complètement d'accord avec ce que tu viens de dire et ça me permet de rebondir sur ce que vous avez chacun dit sur les acteurs, enfin sur la performance des acteurs et notamment donc de Dmitri Mazurov, le rôle principal. Je pense qu'une bonne partie de ce qui du comique du film vient du jeu de cet acteur quand on avait fait les émissions de pronostics, je trouvais que c'était un sérieux prétendant au prix d'interprétation masculine. Je le redis, je le maintiens. Et notamment parce qu'il a une palette de jeux extrêmement intéressante. Il porte tout à fait le film sur ses épaules. Et pour le coup, ça c'est un personnage que je trouve détestable, que je trouve pas que le film nous aide à le comprendre, nous aide à sympathiser avec lui. Je trouve, en tout cas à titre personnel, que dans le autant c'est le cas pour son épouse par exemple, autant lui vraiment pas du tout. Et ce qui est très intéressant, c'est, tu disais que la question de l'humour apportait du corps au film, Claire. Oui, effectivement. C'est le cas aussi dans le jeu de Mazurov, parce que il manifeste cette espèce d'émotion très très veule, très très lâche, très très mais très très organique en fait aussi. Il est en sueur, il est malade. Après avoir fait quelque chose. Il en est vraiment physiquement mal, là où il y avait à un moment précis dans le film de Chabrol, Michel Bouquet était d'une rigidité continue. Là, il est stressé, là, il y a tout un tas de trucs. Et moi, ce qui me fascine, c'est la façon dont il n'est plus du tout dans un régime d'action, en fait, mais vraiment de réaction au monde qui l'entoure. Sur le plan intime comme sur le plan politique, historique, il se laisse... Il se laisse pas déborder par la situation, mais il s'affirme pas, il agit lâchement. Voilà, il n'y a pas le lieu d'une affirmation du personnage dans l'image. Et je trouve ça d'autant plus intéressant que... il y a là la démolition d'une espèce d'idéologie paternaliste et familialiste sur laquelle s'est bâti le régime poutiniste de virilité. Enfin, on connaît tous ces images de propagande de Poutine sur un cheval ou un ours à moitié à poil. Et ça, je trouve que c'est hyper intéressant. C'est-à-dire que il y a une séquence donc chez le photographe. C'est très très bref. Il agit par derrière. Bref, il y a quelque chose de vraiment très intéressant dans ce refus de l'affirmation du duel de quelconque résolution dans les affrontements. C'est toujours, discrètement faire la nique, en fait. Pareil, il y a un écran d'ordinateur à un moment qui prend l'intégralité de l'écran du film et qui est un des moyens que Gleb a pour se débarrasser d'un témoin gênant, etc. Juste, on voit en gros un document Word en train d'être modifié, en gros, et on le voit pas faire autre chose que ça. Bref, le fait, et moi je trouve ça passionnant vraiment dans l'écriture du personnage et dans le jeu de l'acteur, cette incarnation de la lâcheté qui le rend vraiment pour moi assez peu aimable, quoi. Peut-être pas détestable, le terme était fort, mais certainement pas. En tout cas, vraiment, je n'ai eu aucune empathie pour ce mec. Tout en n'étant pas non plus saoulé, comme c'est parfois le cas quand il y a des personnages insupportables à l'écran, par le film, ni par ce qu'il nous raconte, parce qu'il y a plein d'autres choses autour.
Ouais, il est pas aimable, mais il est... En fait, il a tellement de corps, je trouve, en tant que personnage, c'est-à-dire que... Enfin, oui, il occupe pas tout l'écran, mais en même temps, c'est lui qu'on suit. Enfin, je trouve qu'il a quand même énormément de poids dans le film, et que si le film est réussi, c'est aussi beaucoup grâce à lui. À la fois acteur et personnage, parce que le personnage est vraiment très très bien écrit. Que je suis pas entièrement d'accord avec toi, je crois, quand même, parce que tout ce truc de comment la guerre est utilisée par les bourgeois, comment finalement cette situation politique, ok, les gêne un peu, mais en réalité les arrange aussi beaucoup, c'est par lui qu'on voit tout ça. Et je sais pas, il est pas aimable, mais on nous force un peu à le rendre aimable, je trouve. Enfin, aimable, je sais pas si c'est vraiment aimable, mais on nous force à le... Enfin, si, moi, j'insiste, on nous force à le faire... À le comprendre, en fait. Enfin, à comprendre pourquoi il fait ça. Et je pense que c'est là qu'est le rôle aussi de l'amant. Et ce rôle de... Attention, je vais peut-être spoiler, je sais pas... Ouais, je pense que... Ok, on ouvre une partie spoiler. Je pense que c'est là qu'est tout l'intérêt de cette première partie qui est un peu plus concentrée sur le couple, sur sa femme, qui est donc avec cet amant. Où est-ce que je voulais en venir ? Que oui, et que donc c'est en fait c'est vraiment par là qu'on va parler de la politique, parce que c'est comme ça que la politique est dans la situation actuelle, et que faire des grands discours sur oh là là ce que fait la Russie c'est pas bien, ça mène à rien, mais que par contre montrer comment finalement c'est toute cette mécanique guerrière, impérialiste, etc., qui agence toute la société russe, et je trouve hyper intéressante. Et et en fait, à un moment donné, au moment où il tue donc l'amant de sa femme, à un moment donné, je me suis dit, ah, peut-être ça va partir sur un truc un peu, peut-être un peu plus de genre, où on va voir un peu plus d'action, etc. Et en fait, non. Il se limite à ça. Et en fait, je trouve que du coup, c'est hyper intéressant comment il tient toujours ce chemin qui est justement celui de la lâcheté, comme tu parlais, qui est qu'il dévie absolument jamais en tant que héros ou en tant que grande figure. Que ce soit résistant ou à l'inverse complètement dans le schéma que veut le parti, quoi. Il est vraiment dans cette espèce de fine limite qui n'est pas vraiment une zone grise, parce que oui, clairement, il est du entre guillemets mauvais côté de l'histoire, mais en même temps, il est dans la position dans laquelle on l'attend, et dans ce truc très bourgeois de contrôler la situation et de la rendre de la rendre sienne en fait.
Je suis complètement d'accord sur tout ce que, enfin avec tout ce que tu as dit, notamment en fait ça me fait penser à force d'en parler à un film qu'on a chroniqué un peu plus tôt dans l'année au comptoir et qui parlait aussi de la Russie qui était Le Match du Kremlin d'Olivier Assayas qui plus j'y pense plus est un film affreusement mid et surtout en fait le problème c'est pas tellement que c'est un film mid, le problème c'est surtout que c'est, je pense que c'est, enfin plus j'y pense et plus je trouve que c'est un film qui a 30 ans de retard sur ce qu'il essaye de raconter, là où le film de Zvyagintsev, sans que je sois un quelconque expert de ce qui se passe en Russie ou quoi, je trouve en tout cas que c'est un film d'une contemporanéité assez, assez extraordinaire. Et notamment, et c'est ce que tu disais Claire, dans la manière qu'il a, très chabrolienne pour le coup, enfin là il est juste avec son modèle, de faire concorder ce qui se dérègle dans l'intime avec un dérèglement social, sociétal, beaucoup plus large. Et justement, moi je trouve qu'en fait, à la rigueur, l'espèce d'empathie qu'on pourrait avoir pour le personnage de Gleb, ça vient du fait que lui-même, par moments, c'est presque comme s'il se rendait, enfin, qu'il comprenait pas ce qui lui arrivait et qu'il comprenait pas ce que lui-même faisait. Et qu'en fait, dans ces moments de doute, t'as presque l'impression que lui-même se rend compte qu'il n'est qu'un pion dans le système bourgeois, russe, totalitaire, tout ce qu'on veut, et qu'en fait il est juste en train de répliquer des schémas. Et je trouve que effectivement à cet endroit-là, cette espèce de petit trouble, parce qu'en vrai le personnage reste détestable, je suis pour le coup assez d'accord avec lui, je trouve ça vraiment très très vénéneux, très, enfin très fort. Donc ouais, je trouve que c'est un film qui en fait de façon assez subtile, ouais, dit quelque chose de très fort sur son pays.
Oui, alors pour revenir un peu sur tout ce qu'on vient de dire, en fait, moi, je pense que ma perception du film et mon appréciation du film sont aussi médiées par le fait que ben, j'ai vu le film de Chabrol en question, mais vraiment juste avant le festival en plus, parce que j'avais entendu Frémaux en conférence de presse dire que c'était un remake. Donc, je me suis dit, vas-y, je vais faire des devoirs, exactement les devoirs de Thierry. Et en fait, donc il y a forcément des choses que je trouve intéressantes, mais spécifiquement par rapport à ce film. Cela étant, je trouve que Minotaur peut tout à fait s'apprécier indépendamment de Chabrol. Mais là où j'ai trouvé ça très intéressant, c'est la manière dont il sape, comme Fjord le faisait d'ailleurs avec le film de procès, le film de genre. C'est ce que tu disais, Claire, quand tu parlais d'une possible bifurcation vers le genre à un moment dans le film. Là, on a ça, et en même temps, de même que Fjord est un film de procès qui ne veut pas être un film de procès, et ben là, on a un fait divers, en fait, enfin un film de fait divers, un film de... Ouais, vraiment, voire un film policier, qui est remplacé par une chronique extrêmement froide et ciselée du contemporain. Et donc, faut pas s'attendre en soi à ce que l'histoire de faits divers soit intéressante en elle-même. Et quand je disais qu'il n'y avait pas grand-chose à spoiler, c'est qu'en soi, le mari de la femme qui est infidèle, qui vient tuer son amant, c'est pas quelque chose de tout à fait surprenant. Comment dire, c'est dans ce qu'il apporte, enfin, pour parler, continuer à parler du film du côté remake, pardon, qui fait l'intérêt de ce film, c'est ce qu'il apporte aussi, qui fait sa force. Et notamment, on a encore cette idée de chair que t'évoquais Claire tout à l'heure, dans la chair des personnages, il s'attarde beaucoup plus que Chabrol, par exemple, sur le cul, globalement. Enfin, notamment, et sur l'amour que la femme infidèle porte à son amant, qui paraît presque accessoire dans la relation de Chabrol, qui est plus une espèce de dynamique de pouvoir entre voilà, Stéphane Audran, Maurice Ronet, Michel Bouquet. Là, on sent, comment dire, qu'elle a vraiment de l'amour pour son amant. Il prend le temps de filmer une scène de sexe qui n'est pas dans le film de Chabrol, par exemple. Et donc, il y a quelque chose de plus sincère, mais aussi de moins tolérable dans le contexte d'une dictature qui déplace le film, alors certes, de la chronique bourgeoise qui est chez Chabrol, mais aussi vers la représentation d'une société de surveillance qui en vient à contaminer la mise en scène. C'est-à-dire que là où Chabrol avait un petit côté, effectivement, je filme mes personnages de loin, puis d'un coup, je fais des très impressionnants travelling avant pour aller scruter de façon anatomique au scalpel les dynamiques bourgeoises. Là, on a par moments des mouvements qui sont presque des mouvements ou des plans de caméra de surveillance. Alors, il y a l'idée de la transparence qui est celle de la villa avec ses grandes baies vitrées où vivent donc Gleb et sa famille. On a aussi, notamment dans l'appartement de l'amant, juste après le... Alors, non, pendant la scène de sexe et aussi alors que Gleb est en train de nettoyer, des mouvements panoramiques de caméra quasiment à 360 degrés qui sont très impressionnants, j'ai trouvé. Alors, qui sont, enfin, on peut trouver que c'est un effet un peu facile, mais qui là, en l'occurrence, je trouve, sont justifiés, sont bienvenus, et qui, voilà, rendent le tout très fort. Donc voilà, ça, plus le contemporain, avec par exemple les passages de recrutement, font que ce film, moi, m'intéresse, mais vraiment énormément, et j'ai très hâte de retourner le voir quand il sortira en octobre.
Un peu sur la même thématique, notamment sur la question des images de surveillance. T'as dit très bien, je trouve, que ça contamine la mise en scène. Moi, ma petite interprétation du film, du coup, ça part de la toute fin, donc on reste dans la zone spoiler, hein, vous êtes prévenus. C'est-à-dire que le film, enfin le tout dernier plan du film, à moins que je dise une bêtise, c'est un plan sur des nuages vu depuis un avion dans lequel se trouvent Gleb et sa femme et leur fils. C'est le film qui, le fils qui filme ça et qui leur montre donc sur un téléphone et en gros on part du plan sur le téléphone et on finit par juste rentrer dans l'image du téléphone. Sauf qu'en fait, on finit par juste ces nuages. Alors bon, on le distingue pas sur l'image, mais c'est une voix off qui nous le dit ou un truc comme ça. En gros, c'est les nuages au-dessus de je sais plus quelle île en Grèce. La Crète, merci. Voilà, bah, c'est le Minotaure. Et en gros, là, à ce moment-là, moi, j'ai gambergé parce que je me suis dit, concrètement, qu'est-ce que c'est, pourquoi on nous montre des nuages sur ce dernier plan, si on fait abstraction du fait que c'est les nuages au-dessus de la Crète. Et en fait, il se trouve que les nuages, ça fait quand même partie des éléments visuels les plus abstraits qui soient, précisément sur lesquels on projette à peu près tout ce qu'on veut. En l'occurrence, projeter quoi pour nos personnages ? Bah, projeter les images qu'ils ont eux-mêmes supprimé des tabous respectifs qu'ils veulent chacun cacher. En l'occurrence, les images du meurtre pour Gleb et les images de l'adultère pour sa femme. Parce qu'au fond, quand on en revient même au mythe du Minotaure, il y a cette histoire des 14 soldats qui sont sacrifiés. Mais je trouve qu'en fait, si on réduit le choix de la référence au Minotaure à cet épisode-là, c'est OK, hein, mais je trouve ça franchement... pas super intéressant comme recours au mythe. Par contre, si on repense au fait que le Minotaure, c'est aussi et surtout un monstre bâtard issu d'une union pas très assumée entre des dieux et qui, derrière, est caché dans un labyrinthe pour pas que ça crée des emmerdes, en fait, moi, ça m'a beaucoup fait penser à la manière dont les personnages cachent eux-mêmes les preuves de leur espèce de crime. Il y a un truc où, en fait, les deux savent qu'il y a cet adultère. Les deux n'en parlent jamais. Pourtant, les deux ont vu ont les images sous les yeux de ce genre de truc, enfin, de ce qui se passe. Et en fait, leur seule réaction, au fond, c'est de cacher ça sous le tapis, littéralement de détruire les preuves. Et c'est là que je trouve qu'en fait le film est extraordinaire dans son passage du drame intime et banal, enfin du fait divers en fait, pour reprendre le motif chabrolien, à la situation politique et à l'étude presque générale de la Russie contemporaine. C'est qu'en fait, ce phénomène, il contamine non seulement la mise en scène, mais il contamine juste le film entier, puisque du coup, tout le film devient une question d'image qu'on veut cacher, qu'on veut supprimer. Et pour moi, dans cette réflexion-là, en fait, entre guillemets, je trouve qu'on ne peut pas ne pas avoir cette réflexion-là à partir du moment où, dans le choix du remake, il fait de l'amant non plus un écrivain, mais un photographe. D'autant plus que quand il met en scène les ébats de la femme de Gleb et du photographe, il y a un moment ou deux, je crois, où en fait ils reprennent, lui et la photographie en même temps qu'ils font l'amour, et il reprend exactement quasiment la posture que vous trouvez sur l'affiche de Blow Up d'Antonioni, qui est un film excessivement théorique que j'aime beaucoup et tout, mais où du coup, en fait, pour moi, c'est une référence assez claire, et du coup, faire référence à un film qui parle autant. De son propre mode de représentation, de ce que ça implique en termes de violence et d'usage, ça peut pas être anodin. Et ça fait écho à un autre plan à la fin du film, qui est en gros la police qui finit juste par trouver Gleb sur une vidéo de surveillance de l'immeuble du photographe, et qui donc, le flic a littéralement sous les yeux la preuve qui en somme résout l'entièreté du film. Et au moment où il s'apprête à balancer le truc et en fait à résoudre le truc, bah, il reçoit un ordre d'en haut qui lui dit non, vous tenez pas compte de la vidéo. C'est-à-dire qu'en même temps que Gleb détruit jusqu'au bout les preuves de ses actes et que sa femme fait la même chose en parallèle, il en reste toujours une. Et même celle-là, cette fois, c'est le pouvoir directement qui intervient pour censurer. Pour juste annuler l'existence de cette image, pour dire que même si l'image existe, on ne va pas la regarder. Et je trouve que ça, c'est assez extraordinaire comme manière de raconter la Russie contemporaine, et que surtout comme manière de raconter une société totalitaire, qui est de dire à travers un film qui joue beaucoup de ses propres images, qu'en fait, un des propres du totalitarisme aussi, c'est de se forcer à détourner le regard, et que ça se répète après... du pouvoir jusque dans le banal du fait divers et de l'intime.
Oui, non, effectivement, moi je trouve ça hyper intéressant, effectivement, surtout sur la question de l'effacement des preuves, de la suppression de la vérité et du travail général sur l'image, c'est-à-dire qu'il y a tout un télescopage d'images diverses, ça va une multiplication des dispositifs visuels qui veulent en fait finalement plus rien dire du tout, et ça va, je pense, toutes celles que tu as citées, les photographies, l'image de vidéosurveillance de la caméra de l'immeuble, etc., etc., jusqu'à à la fin des plans marquant qui est le changement d'une affiche, une grande affiche type panneau publicitaire sur lequel il y a un des soldats, voire un des conscrits, il me semble que Gleb a envoyé en Ukraine, qui se trouve sur un grand panneau et qui juste l'affiche tombe et est remplacée par une autre, et c'est très très sommaire, on ne sait pas exactement de qui on a la percée, de qui est-ce qu'on partage le point de vue, puisque le plan est très en hauteur sans être perché sur un arbre ni un immeuble, et c'est d'une radicalité presque assez forte. Voilà, sur ces belles paroles, c'est la fin de ce 12e épisode du comptoir du festival. Merci beaucoup Claire, merci beaucoup Aubry, merci beaucoup Asmila, Élise et Corentin, bien sûr, qui nous ont permis pour Transistor de couvrir et d'assister à ce festival. On se retrouve très bientôt, dans 3 jours, pour l'ultime, le dernier, le numéro final du comptoir du festival, où on parlera de cinéma de genre, et cette fois-ci de films qui assument un petit peu plus qui font du cinéma de genre, et avec du matériel un petit peu plus kiffant que la rigueur nordique de cet épisode. Restez donc branchés Transistor, car ce sera bien évidemment disponible sur transistor.fr et sur toutes vos plateformes de podcast. D'ici là, portez-vous bien et partagez-nous. Vive le cinéma et vive Transistor. We'll be right back.